France Inter.
J'entends tout, tout, tout. Des côtés.
Club.
Club.
Go.
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 Et c'est go pour Côté Club. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marion Guilbault.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques pour votre session live quotidienne. Et je suis filmé par Aline Afanoukoué.
Hola à
tous. Ce soir, gros plan sur les musiques africaines, leurs engagements avec Aline Afanoukoué.
Hola a todos.
Hola a todos, comment ça va?
Ça va très bien. Richard Minier, Mamani Keïta, Fafa Rufino, Alvi Bitemo, les Amazones d'Afrique. Bonsoir à vous cinq.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et derrière moi, elles sont au micro déjà. Aline Afanoukoué et Richard Minier vous signent un podcast, une série de podcasts en 8 épisodes. Les légendes de la musique africaine, de Myriam Makeba à Salif Keïta, en passant par Rachida. Oui, la légende est en marche. À vos côtés, les Amazones d'Afrique dégainent leur troisième album, Musso Dance. La danse des femmes qui signe 10 ans d'engagement, puisque l'aventure des Amazones commence sur scène en 2014. Pour ce nouvel album, 6 chanteuses musiciennes prennent la parole et lèvent le poing. Mamani Keïta, Fafa Rufino, Alvi Bitemo seront en live dans quelques instants. Et pour vous Marion ?
Je vais profiter de la présence excitante, stimulante de nos invités pour ouvrir quelques dossiers SM. Ça fait longtemps, SM, calmez-vous Alina. C'est pour scène musicale, bien sûr. Rendez-vous vers 22h30.
Trop de confiance, ouais. Côté club, c'est ouvert, entre vos oreilles.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on part en live sans plus attendre avec les Amazones d'Afrique. Mamani Keïta, Fafa Rufino, Alvi Bitemo, premier titre, Koumafo. Koumafo, ça veut dire quoi ?
Ce que les femmes disent, c'est la vérité.
Bien entendu, sur France Inter.
Mama, 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 mama
Mamani Keita, Fafa Rufino, Alvi Bitemo, les Amazones d'Afrique en live pour Côté Club. La session sera disponible sur le site de l'émission, bien entendu. Prise de son ce soir, Gilles Gaillard, Jérôme Ragano. Venez nous rejoindre, les trois Amazones, et peut-être présenter les Amazones qui vous accompagnent, les deux musiciens derrière. Qui sont-ils? Leur nom?
Nadib Benbella.
Ouais.
Et Manu Leschat.
On les retrouvera tout à l'heure. Manu le chat. Je veux voir la tête de Manu le chat. Oui, c'est vrai. C'est vraiment
c'est un chat.
C'est un vrai chat. Formidable. On les retrouvera tout à l'heure et vous aussi pour un deuxième live. D'abord, la première chose, je vous présente Aline Afanoukoué, Richard Minier.
Bonsoir.
J'imagine que vous connaissez les unes les uns les autres.
En vrai, oui. On s'est rencontrés dans une autre vie avec Mamani.
Oui.
Et puis, ça fait quoi, 8 ans qu'on s'était pas recroisés.
Plus que ça.
Ouais, ça fait. Mais la musique nous relie à chaque fois.
Exactement.
C'était dans quelle autre vie?
Sur une autre radio, en fait.
Ah, ça n'existe pas.
Ah oui, il y a d'autres radios.
Et avec Alvi, on s'est rencontrés au Festival d'Avignon.
Oui,
figurez-vous.
Bah oui, parce qu'Alvi est comédienne, vous l'êtes aussi.
Oui. Ah oui.
Et moi, je jouais au théâtre de la Luna très tard, La Dispute de Marivaux. Et c'était ma première fois au Festival d'Avignon. Et Alvi, toi, tu étais.
Moi, j'étais aussi avec Afropéenne. Et du coup, on s'est croisés. Et je suis allée voir le spectacle.
On allait voir les spectacles les uns des autres.
Une grande comédienne.
Et vous, Richard Minier, alors, qui connaissez-vous parmi
Mamani,
les trois Amazones?
Ouais. Que j'ai rencontré il y a quelques temps déjà au Mali.
Au Mali, oui.
Pendant que je faisais
le projet de Bongana Maïga.
Voilà.
Le maestro Bongana.
Mamani Keita, vous êtes malienne. Fafa Rufino, vous êtes béninoise. Alvi Bitemo, vous êtes congolaise. Est-ce que vous aviez déjà chanté ensemble avant ce projet qui vous réunit?
Non, c'est la première fois que j'ai rencontré Alvi et Fafa. On a déjà chanté ensemble avec Cheikh Tidiane Seck. On était choriste avec Cheikh, si je ne me trompe pas.
Nous, on est compagnons de route depuis 2006-2007.
Oui, exactement.
Donc, on a fait pas mal de projets avec Mamani ensemble.
Alors, tant que vous êtes la toute nouvelle, vous...
Oui, moi, je suis la toute nouvelle, on va dire. J'écoutais la musique, en tout cas, de Mamani et de Fafa, mais on n'avait jamais travaillé ensemble.
On parlera de ce projet dans quelques instants. À vos côtés, donc, Aline Afanoukoué, une des voix de France Inter, la plus musicaline tous les matins. Plus de 2 millions d'auditeurs.
Oui, j'en suis très fière.
Oui, moi aussi.
C'est pas mal, hein.
On est énorme.
Ah, je suis très content.
C'est la plus haut là, à Todos.
Oui.
Ça vient d'où, ce gimmick, d'ailleurs?
En fait, c'était une manière de dire bonjour. J'adore l'Espagne. J'y vais régulièrement. J'ai mon ami d'enfance qui vit là-bas. Bon, bref. Et hola todos, je sais pas. Je trouve que tout de suite, ça donne un ton musical. Et puis, c'est plus pratique que dire bonjour à toutes et à tous. C'est moins long.
C'est vrai.
Et puis voilà, on retient.
C'est ce qu'on fait. Il y a vous avec hola todos. Il y a Douli qui dit bonsoir les petits culs. Est-ce que ça va bien? C'est vrai que nous, on est vraiment.
Il faut qu'on invente un truc.
Et puis il y a eu la télé, il y a eu le théâtre, la comédie. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour les Victoires de la musique. Vous partiez ou reveniez d'un projet, d'une série, Le Daron, c'est ça?
Daron avec Didier Bourdon.
À Bordeaux.
Ça arrive en septembre sur TF1.
Parfait. Mais la chanson, vous avez déjà tenté?
Alors,
avec cette voix si puissante.
Figurez-vous qu'on m'a souvent demandé si j'étais pas chanteuse. Non, je ne le suis pas. Mais je vais me lancer là pour la première fois. Je crois que je vais faire un petit interlude lors du gala Solidarité Sida au Cirque d'Hiver. Et c'est David Donatien qui est le chef d'orchestre de cette soirée et le batteur percussionniste de Angélique Kidjo qui m'a dit mais vas-y, envoie-moi des extraits. On va voir ce que tu peux faire et puis on se débrouille. Et donc, maintenant que le défi est lancé, je vais le relever.
Vous savez déjà quel répertoire?
Je suis en train d'aller vers du Tears Drop. Whenever I hear it back, remind me.
Ça, j'entends déjà que la voix, elle est très belle. J'entends déjà qu'elle est magnifique.
Voilà. Ou alors, il y a Pompe de Jim, Pompe et l'autre. Je suis en train de chercher. Voilà.
Vous produisez donc cette série de podcasts Légendes africaines. On va y venir avec vous, Richard Minier. Richard Minier, producteur de musique, réalisateur de films, commissaire d'exposition. On vous doit le documentaire Africa Mia, la fabuleuse histoire des Maravillas de Mali. D'ailleurs, vous m'avez apporté le DVD, c'est toujours ça, de gagner.
C'est cadeau.
Toujours. Vous voyez ce que c'est, bien sûr, les Maravillas de Mali.
Et un DVD.
C'est avec Bongana Maïga.
Ouais.
Il était le chef d'orchestre. Je peux même dire que c'est lui qui a créé le Maravillas du Mali, parce qu'il est parti, il a eu la bourse
À Cuba, ouais.
À Cuba, avec pour ses aller, amis, ouais. Voilà, pour aller étudier.
On avait déjà fait une émission là-dessus, donc on peut s'y reporter sur cette histoire entre Cuba et le Mali.
Absolument.
La rencontre avec l'Afrique, pour vous, ça commence en 99. Qu'est-ce que vous étiez allé faire là-bas, au Mali, alors même que vous veniez de la scène, on va dire, rock, pop, électro, vous aviez un groupe, Sherpa.
Ouais.
On n'a absolument pas trouvé de son pour Sherpa. Pas plus que pour votre autre groupe, Overmass, mais on a trouvé quelque chose pour encore un autre groupe auquel vous appartenez, The Marathonians. Take your pride and put it in your pocket, babe. If you come into my arms, I'll take it away. Come into my room and I'll tell you only the truth. Come. Donc là, c'est vous, c'est votre groupe, mais les Sherpas, on peut pas du tout trouver. On a cherché.
Alors,
avec
les Sherpas,
Stéphane
Leguenec. Il y a, c'est 94, hein, donc.
Ah oui, mais enfin, c'est pas si loin.
Non, c'est pas si loin, mais il y a un clip qui s'appelle Alléluia. Alors pour la petite histoire, ça marchotait en France, mais on était numéro un au Canada. Donc c'est le moment de gloire que j'ai connu où tu rentres dans une 70 mètres carrés, tu te dis on va partager ça à quatre et on te dit non c'est ta chambre et tu joues devant 2500 personnes avec l'équivalent du Jacques Martin le dimanche qui te dit la France a de très bons groupes de hip-hop.
Et c'était vous, très bien, parfait. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec l'Afrique?
Bah, l'Afrique c'est un voyage, c'est mon premier voyage en Afrique en 99, découverte de la Côte d'Ivoire et du Mali et... Au retour, pour reprendre mon avion pour rentrer en France à Bamako, petit maquis, petit groupe qui joue avec grand bonhomme qui joue de la flûte. Et je me dis, mais c'est pas possible, il est cubain ce gars. Et puis, je suis parti à Cuba pendant 10 ans.
Donc, et l'histoire commence à ce
moment-là. J'avais une caméra. Moi, là-bas, j'étais pas réel, mais voilà. Enquête, puis une quête, puisque ça a duré 20 ans, hein, le process pour le faire exister. Donc voilà, donc Afrique, et ça m'a nourri aussi d'autres projets, puisque évidemment j'ai passé une vingtaine d'années à découvrir les capitales, ce qui se faisait, ce qui se fait, ce qui va se faire, voilà.
Et aujourd'hui, donc, ça donne cette série de podcasts avec Aline Afanoukoué. On va retourner en live avec nos Amazones d'Afrique, avec un nouveau titre, Flows. Ça veut dire quoi ?
Et tout le monde a des défauts et ses imperfections.
C'est vrai ça ?
Sauf toi, Laurent.
Merci Marion. Vous êtes re-signée pour l'année prochaine. C'est parfait. On y va en live sur France Inter.
Tiki 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 cheater. Oh baby, see. Ope mima, choco choco, el añola. Ope misi, ope milo, choco choco, ope misi.
Superbe. Mamani Keita, Fafa Ruffino, Alvi Bitemo en live pour ce deuxième titre. Les sessions, bien sûr, seront disponibles sur le site de l'émission. Un titre extrait de ce troisième album des Amazones d'Afrique. Le projet remonte en 2014 sur scène avec vous déjà, Mamani Keita. Il y avait aussi Oumou Sangaré, il y avait aussi Mariam Doumbia. Donc ça fait donc 10 ans exactement que ce projet est né, initié à l'origine par la productrice Valérie Malo. Vous vous souvenez des premiers concerts? Ils étaient donnés où?
Oui, le premier concert, c'était à Bamako, au Centre culturel français, parce qu'on est parti en 2014 pour créer le projet. Et puis du coup, on a fait un premier concert là-bas, on est retourné. Et le premier concert de la France, ça s'est fait à Noisiel, je me rappelle très bien.
Comment cette prise de parole de femme africaine a-t-elle été perçue au départ, alors que même vous touchiez à des sujets tabous, en fait?
Cette question-là, je peux le laisser à Fafa de le répondre ou à Alvi.
Bah, c'est pas évident, en fait, parce que on parle quand même d'excision, oui. On parle de mutilation génitale en général, on parle de mariage forcé, on parle de polygamie, de violence faite aux femmes et aux jeunes filles. On parle de l'éducation, de la scolarisation des petites filles aussi. Et tout ça, c'est des sujets assez sensibles chez nous, notamment en Afrique, parce qu'on a quand même un système qui est resté assez patriarcal, vous voyez. Donc interdire, parler de tout ça, en plus par des femmes chanteuses, c'est pas évident du tout. Mais bon, comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Voilà, je crois que les gens, d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas trop eu le choix, en fait, que d'écouter. Et comme vous savez, chez nous, on a cette force-là, la diplomatie de la parole africaine. C'est-à-dire qu'on va vous dire sous couvert ce qu'on pense vraiment. Il y a tout ce qu'on appelle les adages. On n'y va pas de façon crue, mais on se comprend très bien, on se comprend à demi-mot, en fait. Donc, je pense que le message, il est passé. Et on a plein d'associations qui naissent un peu partout, des jeunes... Même en Guinée, Conakry, Mamani, tu te souviens, il y a une association de jeunes ados, je crois qu'elles ont entre 13 et 23 ans. Et en fait, elles surveillent, elles ont des espions dans tous les quartiers, elles surveillent dès qu'elles apprennent que quelque part, il y a une petite fille qui va se faire marier. Eh bien, elles forment un mouvement, elles rameutent la foule, elles vont dans la maison de la famille qui est en train de se préparer à faire ce coup-là. Et puis, elles empêchent le mariage, quoi. Voilà.
D'après vous, quel était le sujet le plus tabou qui a été donc dénoncé par les Amazones d'Afrique, vous qui venez de rejoindre la génération Alvi Bitemo?
C'est ce sujet de viol et de polygamie, parce qu'on parle de polygamie, mais en même temps, dans ce qu'on appelle polygamie, il y a beaucoup de viols, beaucoup de violences, et on n'en parle pas. Et je pense que ça a été un sujet, moi, qui m'avait beaucoup frappé. Après, il y a l'excision et tout ça, mais en tout cas, l'excision, on entend parler, mais les violences ou le viol qui se passe dans des couples polygames, on n'en parle pas souvent, et ça, c'était un sujet assez puissant.
Je vais revenir sur l'excision, parce que l'excision est pratiquée par des femmes, justement. Comment les femmes ont entendu ce que d'autres femmes venaient dénoncer? Je sais qu'il y a une chanson qui a été mal passée à l'époque, Fight. Les gens ne voulaient pas véritablement l'écouter, Mamani Keita.
Fight. Elle me relance, elle me balance la question parce que c'est une de mes chansons, en fait.
Ben oui.
Et Fight, moi, j'ai écrit cette chanson justement parce que moi, j'ai une maman qui est une ancienne militante, donc j'ai hérité d'elle, qui était députée, mais aussi qui a subi l'excision. Et moi, j'ai su que ma mère a été excisée en rejoignant les Amazones.
Ah, vous ne l'aviez pas su avant?
Je ne savais absolument pas.
Donc ça a libéré aussi la parole.
Oui, je voyais une guerrière devant moi. Et elle avait une association de femmes qui allait de village en village négocier avec les exciseuses. Il y avait des grandes réunions. Moi, je me rappelle très bien, j'étais petite, mais je la suivais. Des grandes réunions sur les places publiques avec les chefs de village. Et les exciseuses, elles venaient déposer
tout le matériel d'excision. Et en échange, l'association leur montait un petit commerce. Parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi que c'est des femmes qui utilisaient ça aussi pour nourrir leur petite famille. On leur donnait quelque chose en échange. Et en fait, Fight, je me suis dit, en fait, il faut faire comprendre aussi que ce sont des femmes qui pratiquent ça et qu'il faut, il faut dénoncer ça. Et c'est de là que j'ai écrit Fight. Et Fight, c'était pas vraiment, c'était une chanson qui n'était pas forcément la bienvenue parce que je disais des choses qu'il ne fallait pas. Voilà, comment moi, petite fille, je peux oser dire que... Voilà, donc, mais bon, on y est arrivé quand même, on arrivait à jouer ça et...
Et c'est bien de le faire, parce que c'est encore d'actualité.
Ah ben, bien entendu, là, bah là, en Gambie, par exemple, on vient d'apprendre en Gambie, le Parlement examine actuellement le texte qui pourrait légaliser à nouveau l'excision, alors même quand même que le pays avait signé le protocole de Maputo, hein, depuis 2005, c'est-à-dire sur le droit des femmes et des filles, des parlementaires, des religieux, mais aussi des hommes et des femmes de la société veulent lever l'interdiction pour le respect des coutumes et de la culture.
Et des traditions. Ouais. Non, mais et vous, retour
savez,
en arrière,
vous savez qu'en Somalie, quand même, 99% des filles sont excisées. Jusqu'à maintenant.
C'est horrible. Il faut continuer de parler de ça et il faut fighter. Mmh. Encore et toujours.
Les sujets ont évolué quand même depuis les premiers albums. Musicalement aussi, depuis 2017, depuis le premier album. Dans le deuxième, il y avait des fusions pop, house, R&B, reggae. On va d'abord écouter un extrait du premier album pour voir ce qui se passait musicalement. Voilà le son des Amazones en 2017. Et en 2024, que se passe-t-il ? Ça a bien bougé depuis 2017. L'électro est arrivé, a tout changé.
Ça a vraiment changé.
Ouais. Quelle identité musicale vous vouliez justement pour ce troisième album, pour faire entendre ces voix ?
Bon, Alvi, tu
Alvi peux ben, Mamani Guetta, elle distribue la parole. Allez, c'est à toi.
Exactement.
C'est aussi ramener... alors, quand on regarde les Amazones d'Afrique, certains vont dire qu'ils ont un certain âge et tout ça, mais c'est surtout ramener la musique actuelle pour que ça soit audible.
Par les jeunes générations.
Par les jeunes générations, parce que les sujets qui sont abordés là, dis donc, c'est aussi pour la nouvelle génération. Et pour... Il y a des fois, pour faire passer un message aux jeunes, il faut s'intéresser à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils font. Et du coup, on est allé voir ce qu'ils font et pouvoir faire le mélange avec ce que nous, nous savons faire, ce que les Amazones faisaient déjà, faire une fusion pour pouvoir les appeler parce que l'avenir de demain, c'est les jeunes. Et c'est aujourd'hui qu'on doit commencer à leur faire passer le message.
Alors moi, je vais revenir quand même à une pionnière avec vous, Mamani Guetta. Devenir musicienne, chanteuse, ce que vous êtes, est-ce que vous avez dû lutter pour faire accepter ce statut dans votre famille à l'époque ?
Ah oui, avec ma famille, c'était pas facile du tout, du tout, du tout. Bon, moi, ma grand-mère maternelle, déjà, elle était chanteuse. Et donc, du coup, le côté paternel, il n'y a pas eu de chanteur ni de chanteuse. Et ma mère, le moment où j'avais commencé à chanter, elle ne voulait pas du tout que je chante. Et un beau jour, elle a appelé mon frère. Ben, est-ce que tu peux corriger maman? Parce que je voulais pas qu'elle chante. Elle s'est cachée pour aller chanter. Et du coup, mon grand frère, il a dit à ma mère, ben, Fana, ta mère, elle chante, non? Elle a dit oui. Ben, tu veux que je fasse quoi, Mamani? C'est son homonyme, donc elle peut faire comme elle veut. Et c'est comme ça que moi,
commencé.
Voilà, j'ai commencé à chanter. Et puis bon, il faut reconnaître aussi, après le décès de mes deux parents, c'était pas facile du tout en tant qu'une femme chanteuse. Et j'étais danseuse aussi, hein. Et je jouais un peu la percussion. C'était pas facile du tout. Mais néanmoins, j'ai serré la ceinture étant une Amazone.
Et de votre côté, alors, comment ça s'est passé pour vous, devenir chanteuse, musicienne?
Oh, moi, c'était... Mes parents, ils étaient cash, hein. C'était les études d'abord. Et je devais avoir mon master de droit ou rien. Donc, je faisais la musique, mais mon père, c'était clair, tu veux faire la musique, il n'y a pas de problème. Tu dois être dans les trois premiers de ta classe. Il n'y a pas de... C'était donnant. Donc, voilà, je ramenais les bulletins qu'il fallait. Et j'avais la chance que tous mes frères étaient des musiciens.
Oui, du coup, donc il y avait déjà cet ADN dans
voilà,
la famille.
C'est ça. Et donc, toutes les bandes, tous les orchestres où je chantais, ne vous en faites pas. Il y avait toujours mon grand frère à la batterie et l'autre à la basse. Donc, j'étais jamais... On ne m'a jamais laissé et j'étais surveillée et tout, et voilà, donc tout était chronométré. Et puis de toute façon, le nom que je porte, Rufino, au Bénin, ma mère ayant été longtemps dans la politique, c'était un nom connu, donc j'étais surveillée même dehors, je ne pouvais pas faire de bêtises en fait, j'étais surveillée par tout le monde. Pour moi, c'était facile sans être facile, mais je n'ai pas eu de blocage en tant que tel.
Et pour vous, Alvi Bitemo, est-ce qu'il y a eu de la surveillance de tous les côtés?
Non, j'ai pas eu vraiment de la surveillance. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je viens d'un petit village où j'ai été élevée au Congo par ma grand-mère. Le village s'appelle Kitundu à Kimbedi. Et là-bas, tout ce qui est cérémonie et chanter musique. Donc, à la limite, on chante, on danse pour des cérémonies. Mais c'est à 14 ans que je décide d'en faire une profession, dans le sens où j'avais remarqué que quand il y avait un problème, les enfants n'avaient pas le droit de parler. Dans plusieurs pays en Afrique ou encore dans plusieurs ethnies au Congo, les enfants, devant les adultes, n'ont pas un mot. Vous écoutez et vous comprenez, vous posez pas de questions, vous allez comprendre. Et quand je chantais, les gens m'écoutaient. Du coup, quand il y avait embrouille, je mettais dans la chanson. Et donc, fallait pas me chercher dans le sens où ça va finir par être chanté et tout le monde saura ce qui s'est passé. Donc, j'ai commencé à chanter comme ça et j'ai eu la chance. Après, je suis venue vivre avec mon père en ville pour continuer mes études. Et mon père, c'est des gens de papa qui demandent chaque jour presque à chaque enfant, puisqu'on était nombreux, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Vous voulez être quoi? Moi, je voulais être au départ militaire. Oui. J'adorais l'uniforme et j'ai été tout de suite déchantée quand il y a eu la première guerre. Je devais avoir 11 ans ou 12 ans. Et quand j'ai vu ce que les militaires pouvaient faire, j'ai dit non, je peux pas. Et des souvenirs assez terribles où des rebelles, en tout cas les hommes en uniforme, c'est ce qu'il faut les appeler militaires ou pas, mais en tout cas les hommes en uniforme avec une arme qui vont dire cet enfant ne doit pas vivre parce qu'il est ni du sud ni du nord. Et donc il faut le buter. Et quand j'ai vu ça, je dis, je pourrais jamais être cet homme-là, ces hommes-là. Et donc, j'ai dit à mon père, je vais être chanteuse. Et mon père m'a dit, OK, chanteuse, ça paye pas des mines au Congo. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'exemples en chanteuse.
Professionnelle,
on avait des chanteurs, des orchestres, mais menés par des hommes. Et les femmes étaient choristes ou danseuses. Mais elles gagnaient pas grand-chose. Et mon père me dit, OK, je te laisse faire la musique, mais tu fais aussi l'école. Donc, il y avait l'école et il y avait la musique. Et du coup, ça m'a permis d'aller, d'avancer et d'ajouter à mon arc le théâtre, ajouter la basse et voilà.
Amélie Keïda, quel est aujourd'hui le combat le plus important à mener par les Amazones, d'après vous?
Toujours combattre la violence faite aux femmes.
Et ça, c'est pas simplement en Afrique, hein, c'est vraiment partout, un message absolument universel.
Partout dans le monde entier, et on est prêt à tout.
Ah oui, à tout.
À tout.
Même à la violence?
Non. Mais écoute, je dirais pas à la violence.
Mais... Faut pas la chercher, Mamani.
Ah bah non, faut pas la chercher. Bah, les Amazones, c'était des guerrières.
Bah oui, ouais, c'est sûr,
toujours des guerrières.
Les Agogiers.
Ah, les Agogiers. Du Bénin. Merci.
Mais oui.
Allez, je vous propose de faire une pause avec un Amazone. Oui, ça existe. Yamé. Révélation. Oh bah, vous vous souvenez, mais.
Mais oui. Bah ouais.
Révélation des victoires de la musique 2024. On y était. On l'a sacré
on
avec
adore.
Lui. On l'adore. Bah ouais, sur France Inter.
Bah ma gueule, c'est maintenant que tu captes, toi. J'ai le miel d'une épaule. Tu m'entends, tu décolles. Pour changer de vie, j'ai dû hausser le ton. Trop de flow, mon là. Bah ouais, bah ouais. J'repère plus, j'connais tout.
tous les chemins.
Tous les chemins.
Toi, fais que des prennes, des sons sans lendemain. Quand je perds, ça te fait un peu de changement. Tu reconnais, mon la DPS, MY, Yamé. T'es pas dans le game comme fantasme, c'est régalé.
J't'ai dit, j'ai le palais. Avant le skill, signé fallait. J'ai le pied sur terre, la vision d'elle.
Il peut pas m'égaler. Hello.
Ouais, signé Yamé. Vous connaissiez Alvi?
Non, je ne connaissais pas.
Fafa, vous connaissez?
Oui, oh oui. Moi, j'adore. Moi, j'ai téléchargé direct sur iTunes. J'ai acheté, tout son album. Oh, ouais. C'est fantastique. Il a une voix.
Maniketa, vous connaissez?
C'est ma première fois d'entendre.
Et alors?
J'aime.
Bah ouais.
Ma manie valide.
Bah oui, je valide.
Allez, un peu de piquant tout de suite avec les dossiers SM de Marion Guilbeault.
Côté club. Les dossiers SM
sur France Inter.
Premier dossier SM de la soirée, celui sur le conflit qui oppose deux géants du monde musical, TikTok et Universal. Alors si vous n'avez pas vu la saison 1, pas de souci, rappel des épisodes précédents. Le contrat qui liait TikTok à Universal est arrivé à échéance en janvier. La plateforme chinoise payait un certain tarif à la major pour que ses membres puissent utiliser les musiques des artistes Universal. Il devait donc y avoir une renégociation des tarifs sur de nouvelles bases puisque la plateforme recense aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs. Alors jusqu'à présent, il n'y a toujours pas d'accord trouvé entre les deux parties. Et c'est là que ça s'emballe. Universal a accusé TikTok d'essayer de construire une entreprise basée sur la musique sans en payer la juste valeur et de ne pas suffisamment protéger les artistes contre les méfaits de l'intelligence artificielle. TikTok a riposté en répondant qu'Universal fait passer sa propre cupidité avant les intérêts de ses artistes.
Donc une histoire de gros sous.
Oui, mais pas que. Aujourd'hui, il n'y a plus de Taylor Swift, il n'y a plus de Beatles, il n'y a plus de The Weeknd sur TikTok et les sons des artistes Universal continuent de disparaître de la plateforme. On estime que ce serait quand même entre 20 et 30% des sons les plus populaires. Alors si les artistes cités plus haut n'ont pas forcément besoin, eux, de TikTok, ce n'est pas le cas des artistes émergents signés chez Universal et la plateforme chinoise ne s'est pas gênée pour mettre en avant son soutien puissant qu'elle leur apporte. Des artistes émergents qui risquent donc de mettre la pression à Universal. Alors comme dans toute bonne série, il y a du suspense à la fin de chaque saison, et bien le voici. Alors est-ce qu'il faut craindre l'arrivée d'une version payante de TikTok pour financer tout ça? Est-ce le méchant Facebook qui utilise Universal pour affaiblir TikTok? Ou encore les autorités américaines qui se méfient de la Chine? La suite dans la saison 3.
Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas.
Autre dossier SM du jour, celui sur l'épuisement professionnel dans le milieu musical. Ça vous dit quelque chose, là?
Ah oui, le burn-out.
Aline aussi.
On est crevé.
On n'en peut plus. Alors, on commence à en parler beaucoup en France, mais c'est pris très au sérieux chez nos cousins québécois, si j'en crois le papier signé Philippe Renaud dans Le Devoir. Là aussi, petit rappel des faits. Après le Covid et presque 2 ans d'arrêt, les concerts, les tournées ont repris à fond pour ne pas disparaître des charts et des réseaux. Les artistes publient non-stop. Single, EP, album, réédition. Un rythme infernal. artisanale qui anime une industrie musicale qui fonctionne aujourd'hui avec une main-d'œuvre à bout de souffle. L'épuisement professionnel touche tout le monde. Musiciens, tourneurs, techniciens, attachés de presse, régisseurs, managers. Pendant la pandémie, une partie de ces acteurs du milieu musical est partie faire autre chose. Du coup, la charge de travail de ceux qui restent a augmenté avec une accélération du rythme de travail et des moyens financiers insuffisants pour faire face à cette surcharge. En plus, avec le streaming, les artistes et leurs équipes sont rémunérés par des micro-paiements. Si bien que pour rentabiliser son travail, eh bien, il faut en faire beaucoup plus. Les cachets des artistes sur scène ont très peu augmenté en 20 ans. Et pour réussir en vivre, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore plus de concerts. C'est un cercle vicieux dont on ne sort pas ou alors totalement rincé.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire face à cet épuisement généralisé?
Eh bien, les Québécois réfléchissent à mettre en place une sorte de protection sociale pour tous les statuts de cette activité. Une autre recommandation est de doter le secteur de mécanismes assurant le bien-être, la santé et la sécurité dans toute cette activité professionnelle. Alors, combien de travailleurs sont touchés par l'épuisement ou un trouble de santé mentale? Personne ne le sait. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Là aussi, on ne sait pas. En tout cas, le sujet n'est plus tabou. Au Québec comme en France, il faut continuer à en parler, à y réfléchir, avec le mot que vous adorez le plus, Laurent, dans la langue française, avec...
argent.
Bienveillance.
Raté.
Vous êtes comme
le
ça,
piège, le piège.
Vous aimez le fric, hein,
fond, ouais.
La moula.
Argent direct.
Alors la guerre TikTok universelle, qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres, Richard, Minier, Aline?
Bah, on est à l'heure du effectivement du streaming et aussi du pouvoir qu'ont les plateformes de rendre des gens populaires assez rapidement. Et donc il y a forcément aussi un danger par rapport aux maisons de disques qui ont pris un peu le train en marche, même si elles se sont adaptées.
Il faut légiférer tout ça, il faut équilibrer les choses. En fait, on ne peut pas vivre aujourd'hui sans ce système, cette modernité. Mais pour les artistes, c'est souvent redoutable. Et les Taylor Swift, les The Weeknd, eux, n'ont pas de problème.
Exactement.
Ils sont richissimes. Mais pour tous ceux qui se lancent, pour tous ceux qui sont underground, qui sont indépendants, c'est un calvaire. C'est vraiment, c'est terrible. Être chanteur, musicien aujourd'hui, c'est être un guerrier Maasai. Et ça va pas s'arrêter. Donc bon courage à tous ceux qui se lancent. Hein. Soyez motivés parce que...
Et du coup, ça amène sur le deuxième dossier SM, c'est-à-dire l'épuisement, parce que c'est épuisant de faire tout ça. Du côté des Amazon, une réaction à ces deux dossiers?
Je les sens pas épuisés, moi je les sens en pleine forme, mais quand même.
Vous êtes sur TikTok? En fait, les réseaux sociaux, c'est ça aujourd'hui en fait. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit réseau social ou pas, c'est marche ou crève, quoi.
Ouais, ça passe par ça.
Ça, c'est ça, en fait. Donc, on est obligé, d'une manière ou d'une autre, de suivre la ligne. Bah, sinon, et les maisons de disques, comme vous venez de dire, ils n'ont pas trop eu le choix, en fait. Et nous, bah, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Et à chaque fois, il faut poster quelque chose tous les jours pour rester dans le game, si je peux dire. Mmh. Et puis, il y a tellement de choses qui sortent tous les jours que même le public, je pense qu'à un moment, il s'y perd, quoi.
On sature un petit peu, voilà, parfois. Ouais.
Donc c'est vrai que légiférer un peu les choses, ça ne peut faire que du bien.
Tout s'enchaîne, tout s'emballe. Tu refuses du boulot. Aujourd'hui, ben c'est du travail de 2 ans que tu fais sauter. Mmh. Donc il faut enchaîner. Et ben le burn-out arrive. Et maintenant, il y a plein de médocs, des fois.
On va se retrouver dans quelques instants après Shy. C'est la petite fille
de Taboulet-Rochereau.
Ben exactement.
Oui. Ben oui. On a tout fait pour l'avoir. Hein.
Ben oui.
Mais dans votre série podcast.
Ben oui, mais c'est compliqué. Et Youssoupha, et Shai, et le frère de Shai aussi, qui est producteur. Oui. Mais tout le monde a des agendas compliqués parce qu'il faut bien faire les TikTok, donc ça prend du temps.
Allez, Shai, tout de suite, sur France Inter.
17-17, n'appelle pas la police. 17-17, en cœur, j'ai des milliers. 17-17, le gang, il est solide. 17-17, 17-17, n'appelle pas la police. Des milliers, 17-17, le gang il est solide. 17-17, un de ces jours je vais disparaître. Et me fatigue ce putain de game. La quiche est colorée. Ils savent très bien c'est qui la reine. Et t'applaudis comme doc. La volaille assise comme doc. Que
je fais un salaire de fou. Ouh, ouh, ouh. C'est méchant, j'calapasse comme des échants. Ouh, 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 ouh. C'est méchant, pétasse, pétasse. Hey, hey. 17, 17, n'appelle pas la police. 17, 17, dans le cœur j'ai des milliers. 17, 17, le gang il est solide. 17, 17, 17, 17, n'appelle pas la police. 17, 17, dans le cœur j'ai des milliers.
Hola à todos, c'est Alina Fanoukoué. Je vous embarque au pays d'une légende de la musique africaine.
I can't afford the luxury.
Je ne peux pas accepter de n'être qu'une artiste, de ne chanter que pour me faire connaître.
Mon rêve, c'est que mon continent puisse devenir complètement indépendant, que nos jeunes aient envie de rester.
Légende de la musique africaine ou comment les icônes d'aujourd'hui racontent les légendes d'hier qui les ont inspirées. Aujourd'hui, Myriam Makeba racontée par
Angélique Kidjo,
Bintou Sida,
Richard Minier,
auteur et intervenant permanent de ce podcast.
Laurent Goumard.
Eh bien, cette voix immédiatement identifiable, c'est la vôtre, Alina Fanoukoué, bien connue des auditeurs, auditrices de France Inter, pour cette fois, une série de podcasts légendes africaines dont vous êtes l'auteur, donc Richard Minier. 8 épisodes dans l'ordre. Myriam Makeba, Mama Africa, la voix du combat contre l'apartheid. Rachida, le punk rocker du rail, chanteur du métissage. Fela Kuti, le black président, fondateur de l'Afrobeat. Tore Kunda, la famille éléphant des frères Touré, précurseur de la sonomie mondiale. Césaria Evora, la diva au pied nu, Saoudade au Cap-Vert. Taboulé Rochereau, le seigneur du Congo, créateur de la rumba congolaise. Manu Dibango, le révolutionnaire de la musique africaine, du sax à la soul makossa. Et enfin, Salif Keïta, le chanteur à la voix d'or, les combats d'une vie.
Hola a todos, c'est Alina Fanoukoué. Je vous embarque au pays d'une légende de la musique africaine.
En fait, j'aime pas ma voix. Si j'ai commencé à chanter, parce que je n'avais que ça à faire.
Il a pris des balles pour beaucoup de gens. Ouais. Et en fait, il a ouvert une voie qui est là et qui sera toujours
c'est,
là. Quoi.
Ces artistes ont quelque chose de plus.
C'est magique, la guitare. Parce que quand on entend même pas une mélodie, une note, on est tenté à la compléter.
Des souvenirs vous reviennent, Mamani Keita, parce que vous avez été sa choriste?
Oui. Et je suis là aujourd'hui, c'est Salif Keïta qui m'a fait venir en France en 87. J'avais même pas encore eu 20 ans. Je suis resté avec lui au moins 5 ans. C'est un gars et j'ai beaucoup de respect.
Mais oui. Il est immense et on a invité hein, d'ailleurs Mamani, mais là c'est pareil, il y a les tournées et puis il y a la promotion des Amazones de l'Afrique, mais il y aura une saison 2. Donc il y a beaucoup de choses à dire et on n'a pas encore raconté toutes les légendes de la musique africaine.
Je peux imaginer, donc, pas cuite quand même.
Exactement. D'ailleurs, petit scoop, il y a une 9e qui arrive qu'on est en train de préparer.
C'est qui?
Alpha Blondie.
Alpha Blondie.
Raconté par Fada Freddy et Princesse Erika. Trop de blabla. Bla.
Mais oui. Trop de blabla. Bla, j'ai donné déjà.
C'est ça.
Bah, elle est faite. Voilà, le podcast est fait. Vous venez de l'entendre. Alors chaque fois. C'est le même principe, des invités, des artistes d'aujourd'hui qui reviennent sur les légendes du passé. Quel a été l'angle de ce podcast? Quel était le cahier des charges, Richard Minier?
Bah alors, le cahier des charges, à la base, c'était... Moi, j'avais plutôt une idée de faire une série de documentaires, mais je me suis dit, j'ai mis 20 ans pour faire mon premier film. 9 films, ça fait 180 ans, ça va pas,
c'est
être
pas possible.
Et puis, ça paraissait compliqué, parce qu'il y avait déjà eu des documentaires. Et j'ai revu Aline au moment de la sortie d'Africa Mia. Je lui ai dit, écoute, j'ai cette idée que je voudrais transformer en podcast. Je trouve que... On se connaît un peu.
On se connaît bien, ouais.
Mais... On se connaît bien depuis des années. Il y a quelque chose à faire. On n'avait jamais travaillé ensemble.
Non.
Et l'idée première, c'était de, qu'il y ait de la, on raconte une histoire, mais qu'il y ait de la transmission. C'est-à-dire, comment une légende a pu influer sur des nouveaux artistes.
Sur les générations suivantes. Ouais.
Et qu'est-ce que ça représente? Et aussi, il y a un dénominateur commun, c'est qu'on s'aperçoit en faisant ces épisodes que toutes ces légendes ont été des artistes engagés.
Exactement. Ils sont tous militants et ils ont tous lutté pour y arriver et pour nous permettre aussi de nous y retrouver aujourd'hui, pour permettre que les nouvelles générations soient là. Quand on écoute Aya Nakamura, quand on écoute Youssoupha ou autres, avant eux, eh bien, il y a les pères fondateurs, les pionniers, les défricheurs, ceux qui ont dû braver, parfois, au sein même de leur famille, leur volonté de devenir artiste, mais aussi pour traverser les frontières, pour arriver en France, exister, pour aller à l'international. Ce sont tous des militants guerriers, de Myriam Makeba à Rachida, passant par Manu Dibango, ou encore Salif Keïta, qui, lui, devait en plus se battre pour imposer sa différence, puisque, bon, bah, albinos, donc différent,
et rejeté,
mais même poursuivi, pourchassé au Mali pour son sang, pour sa peau, pour parce qu'il y a des traditions encore là qui sont dingues et qu'on retrouve dans cette série de podcasts.
Avec quel artiste vous avez commencé? Quel était le premier que vous avez mis en place?
Fela Kuti, ouais. Raconté par Neka et par Sodi, qui est son
qui a été son ingénieur du son, qui a produit ses 6 derniers albums.
Ouais.
Ce qui était important pour chaque émission, c'était qu'on ait un artiste référent d'aujourd'hui, ouais, mais aussi des témoins proches pour
pouvoir travailler avec.
Oui, qui a travaillé avec
l'ingénieur du son.
Et voilà, donc on a des anecdotes, on a des choses incroyables. Il y a des reprises faites par la nouvelle génération, comme Mélissa Lavo, qui reprend Sodade de César Évora. Il y a Neka qui nous fait un hommage à Fela, Flavia Coelho qui, elle, rend hommage à Manu Dibango. Franchement, vous allez voyager et vous allez aussi comprendre pourquoi cette musique africaine est dans la musique moderne partout aujourd'hui.
Ça permet aussi de recontextualiser aussi l'époque où toutes ces légendes ont commencé, se sont développées, ont eu du succès. Et c'est vrai que, par exemple, si on prend l'exemple de Rachida, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on est... au début des années 80, donc au moment aussi de SOS racisme, les potes et tout. Et lui, il essuie quand même les plâtres en étant... il fait du rock, il est rebeu, il est à Lyon. Et en fait, il essaie de rentrer dans les boîtes de nuit. Et en fait, il peut pas. Donc, il crée sa propre boîte de nuit où tous ceux qui peuvent pas peuvent rentrer. Voilà, donc ça, c'est assez une anecdote assez marrante, mais qu'il faut reconstituer aussi dans l'époque de ce que c'était, quoi.
Et il a aussi créé le Couscous Clan avec Rodolphe Burger.
Avec Rodolphe Burger,
exactement. Mais ça me fait mourir de rire. Mais il était plein de malice.
Parmi ces 8 artistes, enfin les 9, puisque un nouveau va apparaître, Alpha Blondy,
Brigadier Sabal.
Lequel a été important pour vous à titre personnel, Aline?
Myriam Makeba pour moi. Et elle me fait penser à ma maman. Une sorte de force comme ça, de puissance très, très douce à la fois. Et puis, ces chansons que je chantais phonétiquement.
Oui.
Et qu'on a tous chanté. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que moi, donc, c'est Myriam Makeba, et j'étais très émue lors du récit de son histoire avec Angélique Kidjo, qui l'a personnellement connue, et qui nous racontait comment elle a lutté pour que les droits des femmes soient respectés. Et elle a donné sa vie pour son combat à travers sa musique. Et donc, ça, moi, ça a été un des épisodes les plus émouvants pour moi.
Et pour vous, Richard?
Moi, j'aime bien le Rachida parce qu'il est assez, assez contemporain. Et puis, j'ai commencé à faire de la musique un peu à l'époque et tout ça. Mais celui qui a tout déclenché, en fait, c'est Salif Keïta. Parce que je l'ai rencontré, je l'ai interviewé pour mon film. Et en fait, il a parlé un petit peu de mon film, enfin, du sujet qui était les Maravillas de Mali. Mais surtout, il m'a parlé de sa vie. Et j'ai passé 3 heures avec lui, face to face, sur son île, après avoir essayé de le joindre pendant 15 jours. Et l'instant a été tellement fort que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à raconter sur lui, parce qu'il s'est livré. On sait aussi que Salif, c'est pas quelqu'un de facile. Il est quand même très taiseux par moments, très dur. Et moi, je me suis dit, il y a un vrai épisode à faire, en tout cas, sur lui. Et puis ça a enclenché la série, en fait.
Bah, il est écorché. C'était où il devenait une star de la musique, où il mourait.
Et puis c'est un combattant.
Voilà.
Enfin, lui, pour le coup, il s'est battu dès son plus jeune âge, à sa naissance, personne ne voulait de lui. Enfin, c'est du lourd, c'est du gros dossier.
Et parmi les héros et héroïnes de ces podcasts, lequel ou laquelle vous aurez intéressé, vous, Alvi?
Alors, moi, j'étais encore très très jeune, j'ai découvert Angélique Kidjo à la télé, parce que dans mon village, il n'y avait pas de télévision. Et il y avait une famille qui avait une télé, mais en tout cas, c'était compliqué à aller. Et quand j'arrive à Brazzaville, 91, et c'est là la télé et tout ça, je vois Angélique Kidjo avec la tête, les cheveux coupés,
rasé,
musclé, mais vraiment, et elle danse. J'ai dit, ben, c'est ça! Parce que la plupart des clips que je voyais, la femme, elle était très féminisée.
que ça soit à la congolaise, elle était en deux pagnes, coiffée, comme si. Et là, moi qui n'aimais pas les tresses, voir cette femme avec les cheveux coupés.
Une roqueuse,
mais comme oui. ça, mais vraiment forte, avec une puissance. J'ai dit, voilà, si je dois faire la musique, j'aimerais être naturelle, mais comme ça, mais la force, quoi, qui vient. Ouais.
Pour vous, Fafa, quel serait l'héroïne, le héros?
Moi, je vais dire que j'en ai deux. Parce que c'est, premièrement, c'est Myriam Makeba. On a tous grandi avec Myriam Makeba dans
c'est
les oreilles. Kilimanjaro. Et surtout parce que Myriam, moi, quand j'étais petite, ma grand-mère avait un gramophone et elle jouait, comment on appelle ça?
Vinyle.
Voilà, c'est ça. Et c'était la période de Kilimanjaro.
Cette chose-là.
Ah, voilà,
c'était avant TikTok.
C'est ça. Et en fait, pourquoi? Parce que à cette époque-là, c'était l'apartheid. Il y a même un documentaire qui a sorti sur elle parce que c'était il y a deux jours, c'était son anniversaire. Mmh. Moi, je suis à fond Myriam Makeba, j'ai toujours été. Et en fait, c'est dans le documentaire qui venait de l'Afrique du Sud. C'était un grand journaliste sud-africain qui a fait un documentaire sur elle. Il disait justement que c'était l'une des premières voix qui s'était élevée contre l'apartheid à cette époque et qui justement a fui l'Afrique du Sud par rapport à sa position politique et tout ça, liée au chant, tout ça. Et donc nous, Myriam Makeba à fond, et puis Angélique Kidjo, mais ça, j'ai gagné tellement de concours scolaires avec les chansons d'Angélique Kidjo, je suis capable de vous chanter tout son répertoire, du premier album au dernier, sans problème. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi, je connaissais toute la famille et son grand frère, Oscar Kidjo, le grand frère d'Angélique Kidjo. C'est lui qui m'a vraiment mise dans la musique de façon professionnelle. C'est-à-dire que je faisais les concours scolaires avec les chansons de sa sœur et il était membre de jury. Et le père Kidjo était là aussi. Je gagnais tellement qu'à un moment, j'étais devenue hors concours. Et Oscar, il m'a dit, bon, ce qu'on va faire, on arrête tout. Toi, tu fais plus de concours. Tu vas venir travailler dans mon studio.
Je te veux dans mon équipe.
Voilà, et je travaillais dans son studio et tout. Et donc vraiment, pour moi, comme je dis, il y en a deux, quoi. C'est Angélique et c'est, voilà.
Et pour vous, Mamani Keïta?
Pour moi, c'est Myriam Makeba.
Vous aussi, oui.
Et Myriam Makeba, quand elle chantait, ça me fait rappeler de ma grand-mère maternelle. Parce qu'elle, elle était chanteuse des gens qui étaient possédés.
Comment ça, votre grand-mère était chanteuse pour les gens possédés?
Oui.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle faisait alors?
Elle était guérisseuse.
En chantant?
Oui.
On était dépossédés alors.
Et je peux même dire que c'est elle qui m'a transmis sa voix parce que j'ai pas eu la chance d'aller à l'école et c'est mon homonyme. C'est elle qui m'a élevée et c'est comme ça que j'ai appris à chanter et voilà.
Quand on parle des légendes, on parle de ces artistes engagés, mais on parle aussi de grands défricheurs, précurseurs en termes de musique. C'est-à-dire que dans les années 70, Manu Dibango, il a une formation de jazz et tout d'un coup, il sort Sol Makossa et ça devient un hit aux États-Unis. Taboulé Rochereau s'inspire des grands orchestres de soul américaines et il joue à l'Olympia. C'est le premier artiste africain qui joue à l'Olympia. Salif Keita, il va complètement révolutionner aussi la musique africaine. Donc, ce sont des légendes aussi. Parce que ce sont de grands musiciens, de grands artistes qui ont vraiment fait avancer la musique.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Côté Club, c'est fini pour ce soir.
Déjà ?
Ben oui, déjà. Oh, merci, Alain Afanoukoué.
Saison 2, on revient.
Richard Minier, merci à vous deux. Le podcast, c'est Les Légendes de la musique africaine. C'est disponible depuis le 28 février. Ça a énormément de succès sur le site de France
Content.
Inter. Mamani Keïta, Fafa Rufino, Alvi Bitemo, merci à vous trois.
Merci.
Je rappelle que le troisième album des Amazones d'Afrique s'appelle Musso Danse. Et vous serez en concert le 27 mars à Oyonnax, le 29 à Blois, le 7 avril à la Clusa. Et les deux lives que vous avez enregistrés ce soir sont à réécouter sur le site de Côté Club. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Le son électro de Baptiste Lagrave qui signera le mix demain pour Côté Clubbing. À ses côtés, Gaëtson. Je remercie toute l'équipe de Côté Club ce soir. C'est Stéphane Le Guenec à la réalisation. C'est Gilles Gaillard, Jérôme Ragano à la technique. C'est Marion Guilbault, Alexis Gouillet, Virginie Rouzic à la programmation. Aux playlists, Valentine Chedebois. Allez, Côté Club, on ferme. Bonne fin de soirée. Hola a todos.
Oui, je vais me coucher.
C'est ça. À demain.
C'était vraiment des chouettes moments, quoi.
Oui.
C'est tout de suite, bien entendu, tout. C'était quand même génial, quoi.
Bye. Bye.